puisqu'on a déjà, en fait, on a dit 5 minutes de retard, on va limiter ça à 15 minutes, suivi de moments de questions après les deux interventions. Donc c'est Émilie Quéclin et Francis Bourg, qui sont tous les deux dans le domaine de la psychologie, qui vont apporter des réflexions complémentaires. Je pense complémentaires parce que j'ai vu à peu près ce que l'un et l'autre veut dire sur ces questions. Donc on va commencer, dame d'abord, Émilie.
Ok, merci. Voilà, alors en préparant cet exposé, j'ai dû faire beaucoup de choix parce qu'à force de creuser le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de notions et de recherches en psychologie qui pouvaient se rapprocher du concept de mal. Et puis je vais essayer de faire le lien avec ma pratique. Alors ma pratique justement, moi je... Ouais, ça marche ? Moi sinon, je... Ouais. Donc je suis psychologue en institution, donc je travaille à la fois auprès d'enfants et adolescents, alors là d'enfants et adolescents, merci, atteints d'autisme. Donc à la fois je travaille dans l'accompagnement avec les enfants, aussi avec les équipes pour du soutien technique mais aussi du soutien psychologique. Il y a un rôle institutionnel qui est assez important aussi dans la prise de décision, ou en tout cas dans du conseil sur les différentes orientations qu'on peut prendre. Et puis, il y a le soutien des familles, qui est aussi une part de mes missions. Et alors, j'ai recopié juste un petit morceau du code de déontologie des psychologues, parce que finalement, on peut travailler dans des tas de domaines différents, mais il y a quelque chose qui traduit quand même le métier, et qui pour moi prend vraiment beaucoup d'importance, faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Donc c'est vraiment le respect de la dimension psychique, le respect de l'humain, qui pour moi est le fil conducteur dans ma journée de travail et dans ma pratique. Alors, est-ce que ça clique ? C'est bon ? Voilà, ah oui, ok, merci. Ah, ouais, d'accord. Ah, j'arriverai pas, je crois. Attends. C'est juste une souris, mais... Je suis sur du bouton droit, je sais pas.
J'y arrive.
J'y arrive à l'envers.
Ouais, c'est bizarre. Ah oui, en fait, c'est comme ça.
C'est ? Ah, il faut que je glisse.
Oh là là.
Ouais. Ok, bon, on va y arriver. Alors, du coup, il faut que je revienne en arrière, en fait. Ouais. Ah ouais, si, ça marche. Pardon. Ok, ça va marcher. Donc, déjà, je m'étais demandé, est-ce qu'il y a une notion de mal en psychologie ? J'ai cherché dans les champs qui me sont le plus familiers. Alors d'un côté, la psychologie sociale. Vous savez, il y a des champs d'études assez variés en psychologie. Donc il y a la psychologie sociale où je trouve moi une application directe sur ce que j'ai dans mon travail d'équipe. Et puis la psychologie du développement qui fait partie de mes spécialités. Et du coup, ce qu'on peut retenir de ça en application à l'accompagnement des enfants directement en accompagnement psychoéducatif. Ok, j'étais dans le mauvais sens. Voilà. Alors, la psychologie sociale, qu'est-ce que c'est ? En fait, il s'agit d'étudier l'homme tout venant, vous et moi, monsieur tout le monde, avec la façon dont il pense, ses sentiments, ses comportements, la façon dont ça s'est influencé par la présence d'autrui. Une présence qui peut être réelle, imaginaire ou implicite. Et on va aussi tenir compte des caractéristiques de la personne et de la situation. Donc vraiment, ça étudie le tout venant. On n'est pas dans une étude du pathologique. Ah, ok, je vais y arriver. Voilà. Alors, tout de suite, quand on m'a demandé de préparer cette intervention, moi, j'ai pensé à cette recherche historique dont vous avez peut-être entendu parler, la recherche de Milgram sur la soumission à l'autorité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, vous avez dans cette expérience le sujet qui est ici, qui est là dans une situation d'enseignant. L'expérimentateur est là, et ici vous avez un apprenant. Et la consigne qui est donnée au sujet, c'est d'enseigner des associations de mots à l'apprenant et de lui donner des chocs électriques de manière croissante pour en fait tester l'impact de chocs électriques dans des situations d'apprentissage. En fait, ce qu'on teste réellement, c'est la soumission à l'autorité et jusqu'où le sujet va se soumettre à l'expérimentateur pour infliger ces chocs électriques. sachant que sur son petit tableau, il est bien indiqué qu'à 450 volts, il inflige un choc mortel. Alors, les résultats, ils ont été très forts, en tout cas pour les chercheurs de l'époque, parce que 65% des participants sont allés jusqu'à donner un choc ou plus mortel. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait ce type de résultat. Ils s'attendaient à ce que le sujet, au bout d'un moment, demande d'arrêter simplement l'expérience. Alors, il se trouve que le participant, on a observé qu'il avait sa conscience propre, il pouvait souffrir d'infliger ces chocs électriques, il pouvait même supplier l'apprenant de donner la bonne réponse pour qu'il n'ait pas besoin de donner le choc. Il était vraiment dans un conflit interne entre suivre l'autorité qui lui donnait cet ordre-là et faire du mal à l'autre participant. Pourquoi je voulais commencer quand même par ça? Parce que ça nous rappelle en fait que 65% c'est beaucoup, et si nous-mêmes on avait passé cette expérience, on aurait eu 65% de chance sans doute de réagir de cette manière-là. Et en fait, ce que je trouve intéressant en psychologie sociale, c'est qu'on peut très facilement s'identifier du coup au sujet d'études et se demander comment est-ce que nous on réagit dans ces situations-là, et comment est-ce qu'on peut peut-être faire varier différents facteurs pour réagir au mieux, ou en tout cas le plus possible selon notre conscience. Alors, ce qui m'intéresse, moi, retrouve ce que je vais avoir dans ma pratique, c'est la formation des rumeurs. Là aussi, c'est des études qui sont assez anciennes déjà. L'idée, c'est d'avoir plusieurs participants pour voir comment l'information se transmet en relais. Donc, il y a un premier message qui est retransmis plusieurs fois, et on regarde quel est le résultat du message à la fin. Donc là, on a l'expérience d'Alport et Postman, qui date déjà de 68, où en fait, on projette un cliché au mur, et puis on fait entrer une première personne dans la salle qui va décrire l'image, puis une suivante qui ne voit pas l'écran, qui entend juste le message du premier, et qui va le retransmettre encore à une suivante, et à une suivante, et ainsi de suite. Et au final, on regarde quel est le message final. Est-ce qu'il correspond vraiment à l'image initiale ? Et alors, voilà, on a pu observer différents processus qui font que l'information va être réduite à un minimum pour que le message reste cohérent, mais qu'il peut aussi y avoir des transformations dans le message, donc des exagérations, des accentuations, et voire même des inversions de rôle selon les stéréotypes qui peuvent être en jeu. Par exemple, cette image-là, c'est une image qui est plus ou moins pacifique d'une discussion dans un bus. Entre un noir et un blanc, le blanc a un rasoir de l'époque dans son pantalon. La discussion a l'air plus ou moins vive, mais sur les premières transmissions, on a une description assez claire. Et puis au fur et à mesure, c'est l'homme noir qui porte un rasoir, et c'est même l'homme noir qui agresse en fait un blanc avec un rasoir. Donc c'est accentué, les stéréotypes jouent un rôle important dedans. Voilà. Alors ça, ce qui est intéressant dans la psychologie sociale, c'est qu'on va essayer aussi d'expliquer pourquoi ces processus ont lieu. Là, on va penser qu'il y a certaines fonctions mnésiques, c'est-à-dire qu'on va réduire le message pour qu'on soit capable de le retenir et de le retransmettre. Et puis, on élabore aussi une pensée sociale qui soit partagée. Nous, on imagine que transmettre un message, c'est faire du copier-coller. Et en réalité, ça ressemble plutôt à ça. On a du café moulu et à la fin, un café en tasse. Et ce qu'on oublie souvent, c'est le filtre qui est au milieu. Alors, je ne dis pas où ça s'améliore. Le filtre qui est au milieu, c'est nous ou les différents relais. Et c'est vrai que dans la vie quotidienne, que ce soit en entreprise, en association, ou dans tout groupe social, on est amené comme ça à transmettre des messages. Et il va y avoir des rumeurs qui peuvent se mettre à circuler parce qu'on va garder une information saillante plus importante, ou parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui nous touche et on va renforcer ça. Et ces rumeurs, je trouve qu'elles peuvent vraiment avoir des conséquences importantes sur une ambiance de travail, une ambiance d'équipe. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est là dans le quotidien et sur lequel, je pense, on peut agir en étant conscient de ces processus-là. Alors la psychologie sociale, elle apporte aussi d'autres éléments parce que des recherches plus récentes vont s'intéresser plutôt au bien, comment promouvoir le bien ou l'altruisme. On a vu par exemple que se sentir observé mais pas contrôlé peut favoriser des comportements altruistes. Se percevoir comme quelqu'un de bon peut favoriser aussi des comportements altruistes. Par exemple, là, la recherche qui a été faite, c'était en croisant quelqu'un dans la rue, en fait, l'expérimentateur va poser une question, demander son chemin, en fait, à quelqu'un, et la personne va répondre, bien sûr, en donnant le chemin. Et soit l'expérimentateur lui répond vraiment très positivement, « Ah, merci, vous êtes vraiment quelqu'un de bon », soit il la remercie rapidement et il s'en va. Et on a vu que dans les deux conditions, le sujet répond ensuite différemment à une deuxième altercation et va rendre service beaucoup plus facilement si on lui a dit qu'il était quelqu'un de bien et qu'on l'a remercié chaleureusement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut me pousser, moi, à être plus positive dans mes relations pour entraîner derrière des comportements positifs ou altruistes. Alors un autre domaine de recherche qui est important et sur lequel moi je travaille particulièrement, c'est la psychologie du développement. La psychologie du développement, elle s'intéresse, alors j'ai mis une photo d'enfant, mais pas uniquement à l'enfant, mais comment se construit la personne depuis l'enfance et tout au long de sa vie. Et elle va prendre en compte l'humain dans différents domaines psychologiques, c'est-à-dire à la fois cognitif, langagier, affectif et social. Donc c'est assez pluridisciplinaire comme discipline au sein de la psychologie. Alors notamment dans des recherches qui sont assez anciennes, on s'est intéressé au développement de la moralité chez la personne. Donc il y a la théorie de Kohlberg, qui est une théorie en fait par stade, hein, qui est inspirée des modèles piagétiens, qui était aussi par stade dans son approche cognitive. Et ce qu'il a utilisé comme méthode, c'est de proposer à des enfants de différents âges des dilemmes moraux, pour voir quelle était leur réponse, mais surtout comment ils justifiaient cette réponse-là. Alors, le dilemme de Heinz, qui est un connu qui est le plus transmis, je vais vous le lire. La femme de Heinz est très malade. Elle peut mourir d'un instant à l'autre si elle ne prend pas un médicament X. Celui-ci est hors de prix et Heinz ne peut le payer. Il se rend néanmoins chez le pharmacien et lui demande le médicament, ne fût-ce qu'à crédit. Le pharmacien refuse. Que devrait faire Heinz ? Laisser mourir sa femme ? Ou voler le médicament. Donc là, on est dans le cas d'un dilemme et on regarde quel choix justifierait l'enfant selon son âge. Et alors, ce que Kohlberg définit, c'est trois paliers de morale. Un premier palier préconventionnel, entre 5 et 8 ans, qui est régi en fait par les idées d'obéissance et de punition, puis aussi de récompense. Donc si c'est quelque chose de puni, il ne faut pas le faire. Si c'est quelque chose qui n'est pas puni, on peut le faire. Ensuite, il y a un palier conventionnel entre 8 et 13 ans, où là, le groupe social va avoir plus de place. L'adolescent va plus chercher à être conforme à ce qui est accepté dans le groupe social. Donc il intègre les règles du groupe d'appartenance et le regard d'autrui sur ce que la personne devrait faire dans le dilemme. Et il va intégrer les lois, chercher la justice. Et puis, il y a un troisième palier qu'il définit après 13 ans, qui ne serait pas non plus atteint par tous les adultes, qui est un palier post-conventionnel, où il y a une reconnaissance d'une loi comme nécessaire, mais qu'il faudrait de temps en temps pouvoir transgresser, parce que les intérêts individuels ne sont pas toujours compatibles avec cette loi universelle. Alors Kohlberg, il a été assez critiqué parce que déjà, le fait d'être par palier pose un petit problème puisque le troisième palier n'est pas toujours atteint. Alors qu'en général, en psychologie développementale, si on définit des stades, c'est que le stade optimal, celui qui propose le meilleur fonctionnement, c'est le dernier, celui qu'on atteint à l'âge adulte. Donc on se demande pourquoi il ne s'est pas arrêté à un stade conventionnel qui suffit dans le fonctionnement de tout un chacun. Et puis il y a la question justement de la métaphysique ou de la religion qui ne figure pas dedans. Et ça fait partie des critiques qu'il a pu avoir. Est-ce qu'il y aurait un stade encore plus loin, qui serait un stade religieux où il y a d'autres règles encore qui entrent en compte? Voilà. Ensuite, par rapport à cette morale-là, Moi, dans mon travail, directement, j'essaye de faire en sorte que les enfants atteints d'autisme, qui ne reconnaissent pas nécessairement les codes sociaux et les règles, comme nous, on les apprend assez facilement en grandissant, faire en sorte qu'ils puissent tout de même les intégrer et les suivre au mieux. Donc, en fait, on va essayer de clarifier les règles pour eux et leur donner de la motivation pour les suivre. Il faut voir que nous, on a une motivation sociale assez forte à suivre des règles, à grandir, à suivre une certaine éducation. Mais la motivation sociale n'est pas forcément aussi forte chez des personnes autistes. Alors, il y a des supports qui existent. Là, j'emprunte les consignes aux 5C à l'éducation positive, qui sont tout à fait intéressantes pour clarifier des règles et permettre qu'elles soient mieux suivies. C'est déjà utiliser des règles claires, qu'elles soient utilisées dans un langage simple, une formule qui est positive, qui est facile à appréhender pour la personne. Des règles qui sont comprises. Donc on va se poser la question, est-ce qu'on donne les règles par écrit ? Si la personne ne peut pas lire, est-ce qu'on les donne à l'oral ? Si elle ne comprend pas bien le langage, est-ce qu'on va passer par des images, voire des photos, voire des démonstrations physiques ? Donc on va vraiment aller, nous, s'adapter au niveau de compréhension de la personne. On va essayer d'avoir des règles aussi qui sont cohérentes. On va se demander pour qui elles sont. Est-ce qu'elles sont aussi pour les adultes qui entourent les enfants ? Est-ce qu'eux doivent s'appliquer ces règles-là et être un exemple ? On va avoir des règles qui sont constantes, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas varier trop souvent d'un contexte à l'autre pour que les repères soient clairs. On va aussi travailler sur les conséquences pour qu'elles soient le plus naturelles possible, pour qu'elles soient en rapport avec ce qui s'est passé, pour permettre la réparation de certains actes. Et puis moi, j'ajoute toujours aussi un sixième C, en fait, qui est la capacité. On fixe en fait des règles que les enfants sont capables de suivre. On ne va pas fixer des règles qui sont au-delà de leur capacité. Ensuite, on va chercher à donner de la motivation à suivre ces règles-là. Alors, j'arrive au bout du temps, c'est ça ? Oui, ben je vais terminer avec la motivation. Il y a un concept clé qui est la théorie de l'esprit, la capacité d'inférer chez autrui des états mentaux, de se mettre à la place de lui, de reconnaître des sentiments, des émotions chez autrui, qui est déficitaire chez ce public-là. On parle de cécité mentale, il ne voit pas dans l'esprit d'autrui. Et il y a peu de motivation à faire plaisir, donc à faire quelque chose juste pour faire plaisir ou juste pour avoir le sourire en face. Donc on va essayer de donner d'autres agents de motivation, par exemple en donnant des économies de jetons, où lorsque l'enfant a fait son travail, il reçoit un jeton, et au bout de 3 jetons, il peut accéder à une activité qu'il aime bien, ou bien simplement en structurant le temps, savoir que maintenant je travaille à ma table, mais après je sais qu'il y aura la musique. Ce sont des agents de motivation. Du coup, je vais juste passer une partie qui était... J'étais beaucoup trop optimiste. Voilà. Je vais terminer juste par de la déontologie, parce qu'en psychologie, on adhère à un code de déontologie, même si juridiquement, il n'a pas de poids. Il y a un principe de non-jugement qui fait qu'on essaie de comprendre ce que fait une personne, comprendre ce qui a poussé une personne à adopter un comportement, sans forcément chercher à juger d'emblée s'il est bon ou mauvais, mais déjà essayer de comprendre ce qui le pousse à adopter ce comportement. Il y a aussi le choix des techniques d'accompagnement qu'on met en œuvre, qui nécessitent une réflexion morale. Déjà, c'est savoir si les techniques qu'on met en œuvre sont efficaces, est-ce qu'elles sont fondées, est-ce qu'on a un retour de la recherche par rapport à ça, est-ce qu'elles sont bien traitantes, et est-ce que le rapport bénéfice-risque est positif. Voilà, du coup, moi, dans ma pratique, je vais pouvoir essayer de veiller à mon propre comportement, à mes propres attitudes, en pensant à cette histoire des rumeurs, en pensant à essayer de favoriser des comportements altruistes. Je vais essayer d'encourager, du coup, des comportements positifs chez autrui aussi. Et puis, je vais travailler tout particulièrement dans les objectifs de l'accompagnement qu'on fixe régulièrement et les moyens qu'on fixe pour qu'ils soient respectueux de la personne. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et je vous ai juste mis des petites références. La psychologie du bien et du mal de Laurent Beg, qui va reprendre tout un tas d'études liées à la notion de moralité en psychologie. Et puis, conditionnement et apprentissage, c'est la partie que j'ai sautée, donc c'est peut-être pas la peine que je vous en parle plus maintenant. Voilà.
Merci, Élodie. Alors, Francis.
C'est sûr.
Je me permettais, je m'assieds, vu mon grand âge. Donc, apparemment, c'est un peu la course. Je vais donc me dépêcher. La demande était très précise. Comment prendre en compte le mal dans mon métier? Sous quelle forme les conséquences de la chute sont-elles visibles dans mon métier? Est-ce possible par mon métier de réduire les conséquences néfastes du péché? Est-il possible de mentionner le péché en libéral? Voilà toutes les questions qui m'ont été posées. Alors, rapidement, je dirais, premier point, mon métier, c'est psychologue, en libéral. Donc, je vais essayer d'en parler. Deuxième point, la chute et le péché, Jacques en a parlé, en psychologie, on ne connaît pas, donc j'en parlerai très peu. Et puis, le dernier point, c'est le mal. Le mal, effectivement, j'ai été chercher dans le dictionnaire pour savoir un peu ce qu'il disait. Le mal, pour moi, il a une connotation spirituelle, qui est un acte par lequel on transgresse les lois divines, et une connotation psychologique. Donc, je suis en mesure d'en parler au moins sous cet aspect-là. Activité qui fatigue, effort pour venir à bout d'une difficulté. Donc là, moi, j'ai des tas de personnes qui viennent me parler de leurs souffrances, de leurs peurs, de leurs échecs, de leur dépression, de leur addiction à ceci ou à cela. Donc, le mal, je vais essayer d'en parler. Je vais, d'une façon très arbitraire et très schématique, dissocier en trois mâles possibles que je rencontre très souvent. Mais je dis arbitraire parce que les uns sont... Mais on en a déjà un tout petit peu parlé ce matin, mais c'est absolument évident pour moi que les choses sont beaucoup plus complexes que je vais les évoquer. C'est trop schématique. Donc, il y a le mal dont les personnes souffrent, le mal commis par mes parents, mes grands-parents, mon conjoint, mes collègues de travail, etc. Celui-là, en général, il n'est pas très difficile à nommer. Il suffit de dire que la personne a souffert de ceci ou de cela. Sauf que ce mal-là nommé, il a très souvent une conséquence, c'est qu'il entraîne un autre mal. Et très souvent, je suis obligé de me battre parce que les gens restent enfermés dans un statut de victime. Et ça, la plainte, c'est quelque chose contre lequel, en tant que psychologue en libéral, et pas seulement en libéral d'ailleurs, on est obligé de lutter énormément. Le mal que les patients commettent, celui-là, il est beaucoup plus difficile à nommer. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi il est difficile à nommer? Parce qu'il est difficile à en prendre conscience. Nous vivons, évidemment, vous le savez, chacun de nous, très à la surface de nous-mêmes. Et quand il est question de prendre conscience des difficultés qu'on rencontre, des problèmes qui sont les nôtres, d'être vrai avec soi-même, là, c'est extrêmement difficile. Parce qu'alors, la mauvaise foi, c'est quelque chose qu'on connaît bien chez les psychologues, qu'on soit chrétien ou qu'on ne le soit pas d'ailleurs. La Bible parle de dureté du cœur et d'hypocrisie. Les psys parlent de la même chose, sauf qu'ils appellent ça des mécanismes de défense. Ils parlent de clivage, de déni, de projection, etc. Et un troisième mal que je rencontre, mais celui-là, j'en parlerai beaucoup moins, c'est le mal que je connais, que je commets, pardon, moi-même, en tant que psy, en parole. Ça peut arriver de prononcer une parole qui blesse, et là j'ai des excuses à faire, des pensées qui me traversent et qui sont un mal, des murmures, des doutes, etc. Ça, c'est quelque chose que je connais bien dans mon métier. Pourquoi? Parce que, en tant que chrétien, je pense que nos exigences sont infiniment plus importantes que simplement l'exigence du code de déontologie dont Émilie a parlé, qui est ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. Nous, en tant que chrétiens, on nous demande d'aimer notre prochain, d'aimer notre patient. C'est tout à fait autre chose que simplement la neutralité bienveillante. Le mal. J'ai envie de dire qu'en principe, je réponds à la demande qui m'est faite. Une jeune femme vit avec une autre jeune femme qui la sadise. Elle vient parce qu'elle voudrait que je l'aide dans cette relation et je l'aide dans cette relation pathologique. J'ai aidé de nombreuses personnes divorcées qui avaient des difficultés énormes avec les enfants de leur nouveau compagnon ou de leur nouvelle compagne, sans aborder le problème qui est, vous avez bien compris, le problème du mal dont parle la Bible. Des personnes qui vivent dans la débauche et qui continuent à venir. J'ai dit à certaines personnes, un certain nombre de fois, vous perdez votre temps et votre argent, je pense que vous avez un choix à faire. C'est vrai, mais la question, elle est déontologique. Est-ce que j'ai le droit de refuser quelqu'un et de lui dire de ne plus venir ? Vous savez peut-être, en tout cas je vous le dis parce que j'ai été vérifié, que la clause de conscience qui existait dans le code de déontologie des psychologues en 96 a été supprimée en 2012. Donc ce qui veut dire que, logiquement, je n'ai pas le droit de refuser quelqu'un. Les dernières années, puisque je parle en tant qu'ex-psychologue, l'année dernière j'ai pris ma retraite, donc les dernières années, j'avais pris un principe que j'ai essayé de respecter parce que ce n'est pas toujours très facile, c'est quand je nommais un péché, quand je disais à quelqu'un réellement que pour moi son comportement n'était pas acceptable, je ne faisais pas payer, tout simplement parce que je considérais que j'étais hors du cadre de la déontologie. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Je rencontre un jeune homme qui vit dans la débauche, mais vraiment dans la débauche. Et je ne le connaissais pas, mais par contre, ses parents sont chrétiens. Et d'ailleurs, c'est eux qui lui avaient conseillé de venir me voir. Je l'écoute très longtemps. On se voyait de loin en loin parce qu'on habitait assez loin les uns des autres, mais je l'ai écouté très longtemps sans dire un mot, tant sa souffrance était immense. C'est vrai que sa souffrance était immense. Et puis, au bout d'un moment, ça a duré, je pense, au moins largement une année ou une année et demie, je me suis risqué à lui dire délicatement que son comportement était inacceptable au regard de la parole de Dieu. Et il me répond du tac au tac, « Mais vous ne me l'avez jamais dit !» Et je lui dis, « Mais je ne pouvais pas vous le dire parce que vous ne pouviez pas l'entendre. » Et à ce moment-là, il exprime son désir de mettre sa vie en règle devant Dieu. Et progressivement, il va essayer de vivre en chrétien, mais il retombe souvent et se décourage. Et je suis obligé de lui dire que Dieu pardonne et que pour moi, ce qui est, et je pense pour Dieu aussi, ce qui est le plus important, c'est son désir de mettre sa vie en règle avec Dieu et pas de retomber parce que Dieu pardonne chaque fois qu'il retombe. Donc là, j'étais clairement non plus dans le domaine de la psychologie, mais dans le domaine de l'accompagnement spirituel et je pratiquais ce que je viens de vous dire. J'ai parlé du pardon. Le pardon, c'est quelque chose, les psys y font très peu référence. Il y a quelques psys qui en parlent, j'en nommerai deux, Winnicott et Cyrulnik. Je regrette profondément que les psys n'en parlent pas parce qu'ils ne mesurent pas l'importance du pardon. Mettre en lumière le mal subi, ce qui est très souvent l'objectif que s'est fixé la psychanalyse par exemple, c'est pas pour accuser, mais c'est pour pardonner. Deux grands psys, Frankl et Jung, savaient, et ils sont chrétiens ni l'un ni l'autre à ma connaissance, savaient que la vraie guérison d'une blessure est psychologique et spirituelle. Le pardon est la prise de conscience, ou plutôt, pardon, la prise de conscience est le pardon. Alors, si en tant que psychologue, je ne peux pas nommer le péché commis par un patient, je peux éventuellement mettre celui-ci en face de sa conscience. En principe, sa conscience devrait être troublée s'il a des comportements qui l'accusent. Mais vous savez que le problème de la conscience en psychologie est extrêmement grave et sérieux. Pourquoi ? Parce que d'après Freud, la conscience, qui lui était complètement dans la vision que la conscience est issue de l'éducation qu'on a reçue, c'est-à-dire c'est en fonction des interdits parentaux qu'on a reçus. Ça, c'était la vision de Freud, qui bien entendu ne s'intéressait qu'à l'aspect humain des choses. D'autres psys avaient, même non chrétiens, avaient une vision beaucoup plus différente de celle-là et beaucoup plus spirituelle. Frankl, par exemple, avait une vision tout à fait spirituelle. Alors, la question c'est, est-ce qu'on peut échapper à la voix qui nous accuse quand on porte atteinte à autrui ou est-ce qu'on, quand on viole l'ordre de la nature? Un exemple, je rencontre une femme homosexuelle qui désire un enfant. Elle s'injecte plusieurs fois, me dit-elle, le sperme d'un géniteur de passage, sans succès. Et elle me dit, j'aurai jamais d'enfant, il faut que je l'assume, c'est mon choix de sexualité. La punition à laquelle elle pense est-elle le fruit de son éducation? Winnicott, un grand psychologue non chrétien, mais fils de pasteur, il ne faut quand même pas l'oublier, comme saint Paul disait que chacun a en lui une conscience innée du bien et du mal. Le problème, c'est que la conscience, auquel les psychologues peuvent tout à fait faire référence, la conscience peut nous faire des reproches, et Jacques l'a évoqué ce matin, justifiés ou injustifiés. Une dame se reproche avec larmes d'avoir avorté. Un homme se culpabilise d'avoir trompé sa femme. De nombreux parents culpabilisent leurs enfants qui s'éloignent pour faire leur vie avec tout ce qu'on a fait pour toi, etc. Ça, je peux vous le dire. Beaucoup de personnes se culpabilisent chaque fois qu'elles osent dire non. Et ça, je dois très souvent me battre pour leur apprendre à dire non. Je pense à un... Non, c'est pas vrai, c'est pas possible.
J'avais déjà un quart d'heure.
Bon. Alors, je vais réduire. Je pense à un homme qui a 40 ans et qui est marié et père de famille et qui se laisse régulièrement reprocher par sa mère de la négliger. Mère est valide et autonome et je dois lutter pour le dégager de ce mal qui est de quitter père et mère, comme la Bible nous le dit. Et cette relation d'emprise, c'est quelque chose que je rencontre très régulièrement. Alors, le travail du psy est-il de déculpabiliser systématiquement? Ça, c'est un reproche qu'on lui fait souvent. Non, c'est d'analyser les accusations pour accepter celles qui sont acceptables et pas les autres. La notion de mal est une notion extrêmement controversée. La confusion, pour moi, elle augmente de plus en plus. S'estompent les différences entre vérité et mensonge, vie, mort, réel, imaginaire. Un certain nombre de mots perdent complètement leur substance, ce qui fait que c'est difficile d'être psychologue, à mon avis. Par exemple, des termes comme homme, femme, mariage, parent, liberté, égalité, tolérance, etc., perdent complètement leur substance. On dit que toutes les vérités se valent, il suffit d'être sincère, ce qui est profondément ridicule, il suffit de penser aux jeunesses hitlériennes qui étaient sincères. Toutes les sexualités se valent, l'une est simplement plus répandue que les autres. C'est ce que j'évoquerai dans 2 minutes, si on me laisse les 2 minutes supplémentaires. Frankl parle de détresse spirituelle, d'apathie, de nihilisme, de perversion qui se banalise, d'apologie du plaisir, etc. Société sans repère, qui devient dépressive. J'ai lu une revue de médecine très sérieuse qui dit que depuis 2010, les dépressions ont augmenté en France de 30%. Tout le monde s'endort, que ce soit les psys, les chrétiens, dans un tel contexte. De plus en plus formaté, tout le monde accepte le divorce, l'avortement, l'adultère, la pornographie, l'homosexualité, la PMA pour tous et la GPA bientôt. Des patients viennent pour être délivrés du poids de la culpabilité, du joug de certaines de leurs pulsions, mais la plupart ne croient plus à la victoire sur les pulsions. Pour moi, c'est Rousseau qui nous a aveuglés en affirmant que l'homme est bon par nature. Le fossé se creuse entre les valeurs chrétiennes qui sont critiquées et les valeurs du monde, si tant est qu'il en reste encore. Les chrétiens qui annoncent l'évangile sont accusés de fondamentalisme et si on nomme le péché, on est accusé d'intolérance. La société est de plus en plus laxiste et intolérante. Je prends un exemple. En 2013, il y a un rapport de l'OMS qui est paru sur l'éducation sexuelle. Je me suis beaucoup occupé d'enfants et d'adolescents et d'adultes. Et c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Un rapport sur l'éducation sexuelle qui insiste sur les droits de l'enfant. Il est libre d'user de son corps comme il l'entend. Non seulement on banalise les différentes orientations sexuelles, on les encourage même. La pornographie se répand, etc. Moi, j'ai rencontré de nombreux chrétiens qui sont addicts à la pornographie, même mariés d'ailleurs, des jeunes qui me racontent que juste en écoutant leur musique préférée, ils se retrouvent sur des sites pornographiques. J'ai été menacé deux fois pour avoir constaté ce que de grands psys ont dit avant moi, que de nombreuses homosexualités que j'ai rencontrées sont des névroses. De plus en plus, il est difficile de parler des conséquences psychiques de l'avortement, sur la mère bien sûr, des conséquences du divorce sur les enfants, d'étudier le devenir d'enfants élevés par deux parents de même sexe. Même les précautions élémentaires ne sont pas prises, et je trouve qu'il y a de plus en plus de malhonnêteté intellectuelle, etc. Donc, de plus en plus, je pense que la société devient intolérante au nom de la tolérance. Au nom de l'égalité, on veut transformer toute la société, pouvoir enfin supprimer la grande injustice de la différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a plus que quelques psychologues qui osent parler de complémentarité. La Bible en parle toujours. Au nom de l'égalité, par exemple, au nom de l'égalité homme-femme, on impose la garde alternée à des bébés, ce qui pour moi est tout à fait contraire à l'intérêt de l'enfant, etc. D'autres mâles, je termine là-dessus. Un dernier mal auquel je suis très souvent confronté, c'est la plus grande difficulté à élever les enfants. Beaucoup n'obéissent plus, commettent des actes délinquants, l'autorité est attaquée de toutes parts. De l'intérieur de la famille et de l'extérieur, je vais donner deux exemples. J'ai aidé beaucoup de parents. J'ai aidé beaucoup de parents qui n'osent plus faire acte d'autorité. On oublie que les lois ont été données par Dieu et qu'elles ne sont toujours pas abolies. On n'apprend plus aux enfants et aux adolescents à affronter des conflits psychiques ordinaires et structurants de l'existence. On fabrique de plus en plus des personnalités fragiles, infantiles et égocentriques qui ne supportent pas la frustration et n'ont plus conscience de la gravité des actes et paroles. Et de l'extérieur de la famille, quand on lit la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il est dit que les parents ont le choix de l'éducation à donner à leurs enfants. Et quand on voit que 40 ans plus tard, dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il est précisé que dans toute décision, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être primordial, que nul autre intérêt ne doit l'emporter, même pas celui des parents. Eh bien, cet intérêt supérieur de l'enfant, qui n'a jamais été défini, je le précise parce que j'ai lu ça avec attention, est une arme absolue parce qu'elle est maintenant utilisée contre les familles. Les parents sont considérés comme pas suffisants pour donner une bonne éducation sexuelle à leurs enfants. On nous dit qu'il faut des professionnels dénués de préjugés et maintenant, certains parents, en Allemagne par exemple, ont été privés de leurs enfants tout simplement parce qu'ils n'ont pas voulu envoyer leurs enfants en cours d'éducation sexuelle. Et la Cour européenne des droits de l'homme a donné raison à l'État allemand. Il ne faut pas l'oublier.
Conclusion.
Pour moi, l'étau se resserre. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ça c'est Laurence Rossignol qui l'a dit et elle avait raison sur ce point, mais par contre ils n'appartiennent pas à l'État non plus, et je vois que l'État veut de plus en plus avoir la main mise sur l'éducation des enfants. Or, la société n'a pas autorité sur les enfants, c'est clair, on le voit partout maintenant, et les psys non plus. Je suis désolé, j'ai aidé énormément de parents à essayer d'asseoir leur autorité sur des enfants et sur des adolescents, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Donc, je reste convaincu qu'en tant que psy, et en tant que chrétien d'ailleurs, on nous fait avaler de plus en plus de couleuvres. Je pense à la déontologie, la phrase que Émilie a mise en exergue, ça me paraît de plus en plus important de la respecter. Il va falloir de plus en plus choisir entre compromission et résistance, et il va falloir beaucoup plus de lucidité et de courage pour relever la tête comme le Christ nous y invite.
Relever, peut-être. Merci. Alors, je m'excuse un peu auprès